Madame et messieurs, vous suivez la fréquence de la paix. Vous écoutez en ce moment les magazines de la vie au quotidien au Capi Service. Quelle est l'importance de la valorisation des sols dégradés de Yangambi dans la province de la Tchopo? C'est le sujet que nous abordons ce matin dans Capi Service avec Paolo Cerruti, chercheur au CIFOR et chef du projet de restauration du paysage forestier de Yangambi. Bonjour monsieur Paolo Cerruti. Monsieur Paolo Cerruti, vous êtes au bout de fil? Nous aurons comme invité M. Paolo Cerruti, donc nous rappelons qu'il est le chef des projets de restauration du paysage forestier de Yangambi. Nous aurons également comme deuxième invité Madame Amanda Grasse, qui est agente de sensibilisation du projet de valorisation des sols dégradés de Yangambi. Si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-706-6394 et au numéro 081-890-6394. Envoyez-nous vos témoignages, questions et suggestions au courriel dénommé service@radiocapi.net. C'est aussi possible de poster vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service. Tati Mampoukou est à la présentation de ce magazine des faits des sociétés. Marcel Ngombo réalise et coordonne ces numéros. La prise de soins est assurée par Alain Goy, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bonne condition d'écoute de ce numéro.
Vous êtes une femme leader. Vous connaissez une femme leader.
Responsable politique, au cadre d'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires. Connectons-nous, faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 629 11 54 ou alors par email femmeleader@gmail.com.
Bienvenue dans Capi Service, votre magazine des faits des sociétés qui s'intéresse aujourd'hui à l'importance de la valorisation des sols dégradés de Yangambi dans la province de la Tchopo, comme je disais à l'introduction. Autrefois consacré aux grandes plantations expérimentales de cultures telles que les palmiers à huile et les veilla, des milliers d'hectares de terres arables autour de Yangambi dans la province de la Tchopo ont été dégradés pendant des décennies. En raison de l'appauvrissement des sols et du manque d'accès aux intrants et des variétés améliorées, les agriculteurs connaissent des rendements très faibles. Pour contourner cette baisse des productions agricoles à chaque saison culturelle, le Centre de recherche forestière CIFOR a lancé depuis 2018 un programme de reboisement d'un million d'arbres en collaboration avec l'Institut National de Recherche Agronomique INERA à Yangambi dans la province de la Tchopo. Avec l'implantation d'un million d'arbres, c'est une étape capitale vers l'objectif de restauration des 2000 hectares de terre d'ici 2022 selon CIFOR. Quel peut être l'impact de ces projets de reboisement sur les vécus quotidiens de la population locale? Nous en parlons avec nos deux invités. Nous avons déjà en ligne Madame depuis la ville de Kisangani, Amanda Grasse, qui est agent de sensibilisation du projet de valorisation des sols dégradés de Yangambi. Amanda, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Okapi Service. Première question, en quoi consiste le projet de valorisation des sols dégradés de Yangambi?
Ok, merci beaucoup. Comme vous l'avez dit en introduction, ce projet de valorisation vise d'abord toutes ces terres, ces milliers d'hectares. Qui autrefois occupaient les plantations de veilla, de palmiers à huile, de café et tout ça. Et aussi, surtout, on vise d'injecter au maximum possible d'intrants pour améliorer le rendement des populations dans le paysage des Yangambi.
Dans quel état se trouvent toutes ces plantations qui existaient par le passé? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces espaces de plantations qui existaient par le passé, les veilla, les palmiers et autres?
Oui, à l'heure actuelle, on a quelques plantations, quelques hectares qui résistent encore, qui sont encore exploités à l'heure actuelle, entre autres c'est des veilla et aussi des palmiers à huile. Mais pour les restes, ce sont des terres tellement pauvres qui ont été restituées à la population envie de faire des activités agricoles, mais les rendements n'y est pas vraiment au rendez-vous.
Alors, qu'est-ce que CIFOR mène comme activité depuis 2018 hein, pour restaurer ces espaces qui sont vraiment dégradés?
Alors, parmi les actions menées par les CIFOR, le projet de forêt, en gros, il y a les plantations. Il y a les plantations des acacias ou d'autres essences à croissance rapide. Il y a aussi des plantations des essences millefères, de fruitiers, des indigènes. Et ces plantations sont plutôt variées. Il y a des plantations vraiment, vraiment destinées que pour la restauration des terres. Et il y a cela destiné pour essayer de diminuer cette pression qui est en train de s'exercer sur la forêt.
Et vous le faites comment? En collaboration avec les communautés locales, les fermiers, vous le faites sous quelle approche?
Ok, c'est vraiment une collaboration très, très, très étroite. À chaque étape de ces plantations ou des activités du projet, il y a toujours une concertation entre le projet, les institutions de l'État existantes et surtout la population qui est le centre de toutes ces activités. Et il y a des approches qui vont même jusqu'à des concertations.
À des concertations avec les communautés locales. Et est-ce qu'il y a...
Avec les communautés locales, oui.
Oui, pour l'instant, vous avez pu mobiliser combien de fermiers dans les cadres de ces projets?
En tout cas, je peux vaguement dire, depuis bientôt 3 ans, On peut parler d'un millier de personnes sensibilisées, touchées et qui ont participé dans les activités du projet. Je peux vaguement donner un exemple. Avec les plantations que nous avons, depuis 3 ans, il y a plus de 2000 personnes qui ont eu à travailler en étroite collaboration avec le projet.
Amanda, vous êtes Yangabie, en plein cœur de la forêt équatoriale. Quelle est la nécessité du lancement du développement de ces projets dans cette contrée-là? Parce que là, vous êtes en pleine forêt équatoriale.
Exactement. L'importance du lancement de ces projets avait plusieurs volets. Entre autres, on a ici l'INERA, qui est un grand centre de recherche, et on a la réserve de biosphère, qui se trouve justement dans ces paysages de Yangambi, parce qu'on ne parle pas de Yangambi que comme cité, mais il y a tout le paysage autour. L'importance de l'implantation de ces projets visait, entre autres, la diminution de la pression sur la forêt. Ça, c'est un point important, avec tout ce qu'on connaît actuellement avec le changement climatique. Il y avait aussi, comme vous l'avez dit, la restauration des sols dégradés par les plantations. Il y a la création d'emplois aussi, et surtout l'amélioration socio-économique dans la vie dans le quotidien de la population du paysage.
Et à ce jour, est-ce que je peux avoir une idée sur le nombre d'arbres qui sont reboisés dans la zone?
Avoir une idée, oui, on peut, en tout cas, on est dans les plus de 10 000, hein. On est au-delà, on s'approche vers le 1 million.
Comment vous faites exactement dans la pratique? Vous avez des pépinières et après avoir entretenu ces plantules dans les pépinières, et vous le distribuez gratuitement aux fermiers?
Oui, ça c'est une excellente question. Alors, ce qu'il faut comprendre, on est dans un paysage où ce n'est pas appliqué partout de la même façon. Je peux prendre l'exemple sur Yangambi. À Yangambi, il y a deux pépinières entretenues et directement financées par le projet lui-même, mais qui travaillent avec des populations locales. Et là, on a des plantules qui sont après plantées dans des terrains ou des terres des personnes... qui vraiment s'adhèrent à ça, et ils savent qu'après, les arbres leur appartiennent. Ils sont propriétaires, à long terme. Et après, il y a ces pépinières villageoises aussi que nous avons, qui sont entretenues, exclusivement prises en charge par l'effort de la population locale. Et il y a aussi des écoles qui sont soutenues par le programme d'éducation environnementale, qui ont des vergers, des vergers dans les écoles. Et eux aussi, ils bénéficient des arbres quand même qu'on arrive à produire par nos pépinières, soit du projet, soit des pépinières villageoises.
Mais ils les font dans leur concession ou les fermes appartiennent à l'INRA en Gambie?
Oui, oui, comme vous l'avez dit, à Yangambi, le terre appartient à l'INRA parce que c'est un centre de recherche et c'est vraiment en plein cœur de Yangambi que l'INRA effectue ses recherches en effet. Mais les populations, pour leur survie, l'INRA a dû leur donner des terres ou des terrains qu'ils peuvent exploiter temporairement. Donc ce sont des occupations temporaires de ces terrains. Et c'est là où justement ces arbres sont implantés. Toujours avec l'accord du bénéficiaire, d'abord qui accepte de recevoir ces arbres, d'en prendre soin et à la longue d'en faire bon usage.
Quelle est l'importance de la valorisation des sols dégradés de Yangambi dans la province de la Tchopo? Nous en parlons aujourd'hui avec comme invité Amanda Grasse, qui est agent de sensibilisation du projet de valorisation des sols dégradés. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-6394. Nous retournons au standard pour donner la parole à la première vague des auditeurs qui ont appelé pour intervenir en direct. Madame Amanda, ne coupez pas, gardez la ligne. Nous revenons vers vous tout de suite.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience. Il n'a pas bien travaillé.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Fariel Malassa, vous êtes à Ilebo, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour messieurs les journalistes et bonjour aussi à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Nous parlons de la valorisation des sols dégradés de Yangambi dans la province de la Tchopo. Quelle est la question que vous avez à nous poser?
Oui, d'abord, j'ai les commentaires par rapport à ce sujet, mais c'est les journalistes. J'ai beaucoup vraiment aimé ce projet parce que le projet est vraiment très capital et évident pour sauver les sols dégradés de Yangambi à Tchopo. Parce que l'approvisionnement même des sols et du marché d'accès aux intrants conduira vraiment davantage à la catastrophe. D'où le reboisement des millions d'arbres est une nécessité pour contourner à cette difficulté. Et j'ai maintenant une question que je dois poser à la dame qui est là dans les antennes. Combien d'arbres sont déjà plantés depuis 2018? Parce qu'on parle toujours d'un million d'arbres plantés, Est-ce que c'est déjà un million ou nous sommes à combien? C'est pourquoi je voudrais savoir vraiment combien d'arbres déjà plantés.
Merci beaucoup, monsieur Fariel. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville d'Ilebo. Cette fois-ci, nous donnons la parole à monsieur Serge. Il est à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Oui, bonjour Radio Okapi et bonjour à madame Yamanda.
Allez droit au but. Quelle est la question que vous avez à nous poser?
Oui, je voudrais me rectifier. Moi, c'est Serge Kalo Diamugunda. J'appelle la partie de Kindu Omayema.
D'accord, Serge, vous êtes à Kindu.
Je voudrais seulement poser la question à madame Amanda, parce que nous sommes ici au Omayema. Nous avons des difficultés par rapport à la valorisation de nos forêts. Nous avons une plantation qui produisait, mais actuellement, ça ne produit plus. Maintenant, je voudrais en des termes clairs, comme je ne suis pas un peu expert dans cette matière, je ne sais pas comment madame a fait ses approches pour qu'il puisse valoriser cette terre-là d'Amanda, donc cette terre-là de Yangambi. Maintenant, chez nous ici, nous avons la même difficulté. On voudrait un peu puiser dans lui quelque chose pour que nous puissions aussi valoriser notre plantation, les terres qui nous entourent ici. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, M. Serge. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Kindu dans les Maniema. Amanda, comment vous répondez-vous au premier auditeur Fariel qui voudrait savoir jusqu'à présent, vous avez planté exactement, il va avoir une idée sur le nombre d'arbres qui sont déjà plantés.
Ok, merci Monsieur Fariel. Merci, très intéressante question. Alors, je n'ai pas le chiffre exact, très exact là maintenant, mais je peux vous assurer qu'on approche le 1 million d'arbres. Monsieur Paolo, qui nous rejoindra peut-être très bientôt, pourra nous apporter une précision par rapport à cette question.
Oui, et là, qui c'est Serge qui a appelé de Kindu, et il a dit qu'à Kindu aussi, ils ont fait les, il a fait le même constat, que les sols sont vraiment dégradés. Quelles suggestions ou quelles sont les propositions que tu peux leur avancer pour qu'ils puissent arriver, réussir à enrichir leurs sols?
Ok, merci beaucoup, monsieur Serge. Alors, les terres dont on parle, j'imagine, sont des terres qui sont cultivées, sur lesquelles sont mises des cultures vivrières. Alors, l'une des approches que je pourrais la plus vous recommander serait l'agroforesterie. Parce qu'avec l'agroforesterie, vous avez cette opportunité de continuer à mettre des cultures vivrières. En même temps, vous avez les arbres à côté qui essayent de restaurer le sol. Et surtout pour ça, il faut voir les essences qui répondent mieux au climat et au sol, au type de sol dans lequel, là où vous vous trouvez exactement. Donc ici, nous avons... Parmi tant d'exemples, je peux prendre l'acacia, qui est connue pour sa croissance rapide déjà, et aussi pour sa capacité à fixer l'azote et à restaurer le sol qui peut servir après comme bois de chauffe. Et c'est un peu ce que je pourrais répondre à M. Serge.
Oui, Amanda, grâce, il y a aussi des sources qui disent, certains spécialistes qui disent que acacia n'est pas assez recommandé pour notre sol parce qu'il appauvrit les sols malgré sa croissance rapide. Hein.
Bah, ok, j'aimerais bien vérifier ces sources, mais l'acacia, d'abord c'est une légumineuse, comme je pourrais citer le nibé ou autres légumineuses que nous connaissons. Et ils ont cette particularité de fixer l'azote, ce qui, en principe, devrait enrichir le sol. Donc, c'est plutôt l'effet contraire que nous observons avec l'acacia. On est en train de récolter des résultats très positifs jusque-là.
Nous retournons au standard pour donner la parole cette fois-ci à Justin. Il est à Fungurume. Monsieur Justin, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour mon ami, et je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est la question que vous avez à poser à notre invité?
Oui, j'ai quelques questions à poser, mais permettez-moi d'entrer en matière d'abord par quelques petites énoncés.
Allez-y.
J'ai eu à partager avec quelques Belges que j'ai rencontrés dans mes parcours, en leur posant la question de savoir où est-ce qu'ils avaient amassé cet argent qui les aide à garder leur position jusqu'à aujourd'hui. Parce que même un chômeur en Belgique, il est payé. Et ces Belges n'avaient pas caché la réponse. Ils m'avaient dit que c'est dans le caoutchouc. Or, le caoutchouc, c'est les plantations de l'EVA qu'on était en train d'extraire la sève pour faire le caoutchouc. Alors, c'est avec un bravoure que je salue le choix de ce sujet. Que ça manifeste que petit à petit nos autorités commencent à tourner les yeux vers l'agriculture et les reboisements tels qu'il y a eu en Gambie, il y aura même d'autres. Là, je suis content, je ne cache pas ma position, mais il y a une chose que je sais un peu de regretter. Il y a 2 mois, j'ai passé dans les Olomami, et plus précisément dans les chefferies Kapamaï, dans les localités appelées Masenga, Kilomboï, là où il y a une pourriture de manioc. Mais les 2 mois que j'ai passé là-bas, je n'ai pas encore vu, je n'avais même pas vu un ministre venir vérifier et donner la réponse aux cultivateurs artisanaux, c'est dire que non, s'il y a la pourriture, c'est tel élément ou tel élément qui manque dans le sol. Même jusqu'au moment où je vous parle, il y a un grand fléau qui a déjà pointé son horizon là dans ce coin-là. Et les paysans ne savent pas à quel sens il faut se vouer. Alors ça m'aidera peut-être à entrer directement en contact, puisqu'il y a nos autorités qui nous suivent de Kamina, qui peuvent déjà descendre, savoir qu'est-ce qui cause cette pourriture. Parce que de ce côté-là, c'est le manioc qui est la nourriture principale. Ils ne mangent pas même la farine ici de maïs, c'est rarement. J'ai vu que les enfants étaient en train de peiner. Ils ne savent pas même comment préparer la farine de maïs. Alors, pour ma question, c'est une question de curiosité. Il y a eu Yangambi et Madame Anganda. Comment il y a eu le choix de ce sujet et le choix de tel nom au reboisement que Yangambi? Et c'est la dame qui est invitée, c'est Anganda. Je cherche un peu de transparence.
Non, elle s'appelle Amanda plutôt. C'est plutôt Amanda son nom de famille.
Amanda. Oui, ça coïncide avec Yangambi et Amanda. Alors, j'ai dit, leur projet donnera, puisqu'ils ont déjà planifié, leur projet donnera le résultat pendant combien de temps que nous pouvons espérer. Et à la fin de ce projet, dans autant de mois, nous commencerons à avoir des résultats de reboisement. Mais... Et pour terminer,
allez-y rapidement.
Je demande de que ce projet de reboisement, puisqu'il y a des terres vides, qu'on avance aussi avec d'autres coins qui, là où il y a des terres arables. Ils ne font pas seulement se limiter à de l'autre côté là. Je souhaite aussi, si ça pouvait intéresser Madame Anganda, de choisir encore un site là où il y a les climats tropicaux humides, là où les plantations peuvent être encore favorables. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup Justin. Nous rappelons que vous intervenez depuis Fungurume. Retournons cette fois-ci à Kananga, au Kasaï Central, hein, pour donner la parole à Madame Evelyne. Bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
Bonjour à notre invité et à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est la question que vous avez à poser à notre invité?
Oui, ma question est la suivante. Le projet de reboisement, à mon humble avis, c'est un projet qui va s'étaler sur beaucoup d'années. Donc, c'est un projet à long terme. Mais si aujourd'hui les cultivateurs sont butés à une difficulté à laquelle la réponse doit être une réponse immédiate, moi je crois qu'on pouvait adopter pour le projet à court terme, qui est celui de laisser ce sol-là en jachère même pendant 3 ans, et sur lequel on pouvait répandre les grains de Mukuna et de Kitonia. Alors, Mukuna et Kitonia ont des résultats vraiment très rapides, et ça pouvait aider les agriculteurs d'attaquer l'activité après une courte durée de 3 ans. Mais avec le reboisement, à moins qu'ils me disent autre chose, mais je crois que ça prendra beaucoup d'années. Ça va prendre beaucoup d'années. C'est un projet à long terme. Bon, voilà qu'est-ce qu'elle me dit. Parce que personnellement, je sens que l'agriculteur sera obligé de se rechercher des sites qui sont un peu éloignés, tout ça. Mais pour les espaces dégradés, déjà, personnellement, j'avais souhaité qu'on y aille sur la voie des affaires et que le Mukuna soit planté, le Kitonia, ce serait vite fait, et j'aimerais un peu savoir quel est le nom des arbres qui sont plantés là, et comment ces arbres-là arrivent à ne pas à revaloriser le sol, qu'elles me disent comment ça se fait. Et ça sera après combien de temps?
Merci beaucoup Madame Evelyne, nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Kananga. Allons cette fois-ci à Kisangani pour donner la parole à Héritier Waminga. Bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste.
Quelle est la question que vous avez à poser à notre invité?
Voilà, je commence avec une petite analyse avant de soumettre quelques questions à l'invité. D'abord, il faut retenir que la route qui mène de Kisangani à Yangambi se trouve dans un état de développement très avancé. Et cela ne permet pas à ceux que le projet qui sont réalisés à partir de Yangambi soit au bénéfice de la population. Non seulement la route, mais aussi parce qu'on parle de la forêt elle-même a vieilli. Et il n'y a pas un plat de reboisement, il n'y a pas un plat de rajeunissement de la forêt. Et aussi, même la maison des sociétés qui gère Yangambi, Issa Yangambi, vous regardez les maisons laissées par le Belge, juste à preuve du contraire, il n'y a pas la réhabilitation, les maisons se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Ici, c'est le problème de leadership. Est-ce que nous avons des autorités qui pensent que la vie dépend aussi de la forêt, parce que nous avons de l'oxygène à partir des arbres et aussi même à partir du sol. Le sol qui poussait à Yangambi, nous avons par exemple la culture des vignes. Est-ce que le sol qui nous produit le vigne à chaque instant, on passe déjà, les chercheurs pensent qu'on va rajeunir aussi le sol. C'est aussi longtemps qu'on est en train de revenir sur la production, en tout cas, il y a aussi l'amortissement. Donc, nous avons besoin, il y avait un projet, soit disant un projet de pépinière pour changer, rajeunir la forêt. Mais où en sommes-nous? Nous sommes à quel niveau? les engins d'ailleurs qui vont exécuter ce projet vont passer par quel moyen? Parce qu'il n'y a pas de route. D'où il faut commencer par là. Le moyen de communication sont très importants dans la vie d'un pays. Il faut penser à tenir le route et aussi à faciliter la communication entre Kisangani, parce que Kisangani se trouve en ce jour le centre de quoi le centre de recherche, le centre qui favorise donc les chercheurs qui peuvent aller à Yangambi et revenir, tout ça. Nous avons l'UNIPI et nous avons aussi l'IPA Yangambi qui se trouve d'ailleurs à Kisangani ici. Mais il y a des ingénieurs qui passent leur journée ici, qui passent les nuits ici, mais ils n'ont pas de route pour aller faire des recherches au niveau de Yangambi.
Merci beaucoup, Héritier Wabenga. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Kisangani. Madame Amanda, comment répondez-vous à chaud hein, à la préoccupation d'Héritier Wabenga qui parle de l'enclavement de Yangambi?
Ok, merci. Héritier a évoqué 4-5-6 problèmes en même temps. Mmh. Il a évoqué la question du vieillissement de la forêt. Mmh. Je crois entendre ça. Il a parlé de l'état des maisons à Yangambi, de l'état de route aussi.
Oui, il y a des chercheurs qui ne savent pas faire les mouvements de Kisangani à Yangambi. Ouais.
Ok. Je réponds par la première préoccupation d'Héritier qui était de savoir qu'est-ce qu'on fait pour la forêt qui est vieille. Alors, ce que j'aimerais dire à Héritier, que la forêt a lui-même cette capacité de se régénérer. Il y a tout un système par lequel une forêt se régénère. Et en appui à cela, il y a justement ces plantations qui se rapprochent de habitations, ces plantations des fruitiers, de diverses essences qui se rapprochent des habitations afin de restaurer les sols et empêcher qu'à chaque fois les agriculteurs ne soient obligés ou forcés d'aller ouvrir de nouveaux champs dans la forêt au risque de toucher la forêt primaire. Et pour ce qui est de l'état de maison, en tout cas, monsieur Hérité, tout ce que je souhaite pour vous par rapport à cette question, c'est que nous soyons tous vraiment, ce qui est vrai, oui, on peut constater, c'est là, que ce soit possible de rénover ces maisons et pourquoi pas d'en construire d'autres. Parce qu'à la base, ce sont des camps destinés aux chercheurs de l'INERA. Autrefois, jusqu'à l'heure actuelle, les employés de l'INERA sont principalement les habitants de toutes ces maisons que nous voyons à Yangambi. Et pour ce qui est de moyens de transport entre Yangambi et Kisangani, évitez, mais il y a les fleuves déjà, qui est un moyen de transport, oui. Et en effet, la route, elle n'est pas bonne. Mais n'empêche qu'elle reste quand même praticable. On prend 4 heures à moto et on est à Kisangani.
Madame Evelyne voulait savoir, quelles sont les essences d'arbres qui sont plantées dans les cadre de ces projets. Et pourquoi parce que la restauration des sols par la plantation, les reboisements, est une activité de longue durée. Pourquoi ne pas encourager, par exemple, la plantation de herbes sauvages qui enrichissent les sols rapidement, telles que Titonia?
Ok, merci beaucoup. Je suivis très bien Madame Evelyne par rapport à ce point-là. Elle a évoqué le Mukuna, par exemple, et je tiens à répondre à Madame Evelyne que le CIFOR, en tant qu'un centre de recherche international, le Mukuna est aussi testé à l'heure actuelle, la faisabilité, comment procéder avec le Mukuna. Mais je tiens à informer Madame aussi que le tas de la dégradation, elle est vraiment, vraiment poussée. En tout cas, elle l'était jusqu'à ce que des actions ne soient mises en place. La dégradation, elle est vraiment poussée. Ce qui fait que ce n'est pas une jachère de 3 ans qui peut réparer les dégâts causés par une plantation de VA depuis des dizaines d'années, voyez-vous. Donc, il y a l'agroforesterie qui est mise en place pour justement ne pas forcer l'agriculteur à abandonner les terrains le temps que les arbres soit exploitable ou qu'il soit plus grand. Avec l'agroforesterie, il est capable d'utiliser son terrain en même temps que les arbres sont mis entre les lignes.
Il y a l'auditeur qui sait, Justin de Fungurume, qui voulait savoir dans quel état se trouvent les plantations d'EVA qui, par le passé, faisaient vraiment les rayonnements de l'économie de l'époque.
Ok. Pour ce qui est des plantations d'EVA, ce sont les plantations de l'INERA, je tiens à le rappeler. Et au début, je fais un petit état des lieux en disant que ce ne sont pas toutes les plantations qui n'existent plus. Ce ne sont pas, il n'y a plus de plantations du tout, non. Il y a encore des plantations qui existent. Et on voit l'INERA avec ses chercheurs, avec son bureau de recherche et développement, qui essaye de tester de nouvelles approches toujours pour régénérer ces plantations. D'une autre part, il y a ces plantations qui étaient tellement vieilles et improductives au point où elles ont été abandonnées et redistribuées aux chercheurs et aux employés de l'INERA pour qu'ils y fassent de l'agriculture. Et c'est justement là où actuellement le projet est en train d'essayer d'agir par rapport à cette dégradation de sol dans ces vieilles plantations.
Quelle est l'importance de la valorisation des sols dégradés de Yangami dans la province de la Tchopo? Si ces sujets vous intéressent, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-706-63-94 au numéro 081-890-63-94.
Salut, j'ai le plaisir de vous annoncer le retour sur nos antennes de l'émission Roundup. Je suis Nico Kalambay et je vous retrouve désormais chaque samedi de 13h à 15h pour la diffusion et dimanche de 20h à 22h pour la rediffusion. Roundup signe son retour à partir du 24 avril 2021. On se retrouve donc très vite sur les ondes avec vous.
Nous retournons ici à Kinshasa, au Standard, hein, pour cette fois-ci donner la parole à l'ingénieur Mamba Mamba. Il est directeur de la direction des maladies des plantes phytothérapie au niveau du secrétariat général du ministère de l'Agriculture. Ingénieur Damas, c'est bonjour.
Oui, bonjour Kapi, bonjour à notre invité. Le sujet est très important, mais je vais proposer déjà à notre invité pour les sols dégradés au jour d'aujourd'hui. Dans bien d'autres pays et dans notre pays, on préconise la plantation des essences de bambou. Les bambous sont utilisés dans les terres dégradées pour restaurer la fertilité. Et les bambous également multiples finalités qui désintéressent les agriculteurs de continuer à faire le déboisement. C'est-à-dire que les bambous interviennent dans l'industrie avec plusieurs spéculations et plusieurs filières qui préférait que les agriculteurs, au lieu de continuer à dégrader à couper le bois, ils vont avoir les bambous qui restent en fertilité. En même temps, il intervient dans le commerce. Ça, c'est, puisque je parle de Yangari, ça, c'est mon biotope. Je suis formé à l'art et je connais le milieu. Et également, je suis d'accord avec l'invité quand il parle de l'agroforesterie, mais en dehors de l'essence que vous allez utiliser pour la restauration de la fertilité, il faut également proposer, parce que quand la dame a proposé les tétonia est aujourd'hui utilisée dans la lutte contre la chenille légionnaire d'automne, en extrayant en essayant d'avoir, c'est utilisé comme plante botanique, et ces plantes portent quelques fruits, quelques solutions dans le contrôle de la chenille légionnaire et d'autres pathogènes de plantes. Donc moi je pense que l'émission est importante et ce que je souhaiterais, je voudrais savoir également les liens qu'il y a entre le projet et l'INERA, puisqu'il y a plusieurs technologies qui peuvent être tentées pour la restauration de la fertilité, et également je souhaiterais que le projet s'intéresse au programme Bambou qui est en train de s'implanter partout et savoir ce que le bénéfice que les bambous peuvent apporter dans les terrains dégradés. Mais là où le terrain n'est pas dégradé, la jachère qui est préconisée par une dame qui est intervenue,
Madame Evelyne, oui.
Il faut la solutionner également. Merci pour m'avoir accordé la parole.
Merci beaucoup, ingénieur Damas et Mamba Mamba. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Kinshasa. Allons cette fois-ci à Kanyoka pour donner la parole à Kachai. Bonjour Kachai.
Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour à madame l'invitée.
Allez droit au but, quelle est la question que vous avez à poser à notre invité?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Le sujet est trop intéressant, à telle enseigne qu'il touche à la survie de la population. Mais mon inquiétude est à ce niveau. Si souvent, quand on commence des projets au Congo, dans n'importe quel secteur, cela n'aboutit pas toujours. Il va connaître des couacs par manque de suivi et évaluation de ceux-là qui sont appelés à vérifier la la bienfaisance de ces projets-là. Alors c'est ainsi que, bon, aujourd'hui là, je me levais d'avoir déjà à la tête du ministère de l'Environnement une dame très combattante, Madame Eve Nazaïba. Je sais qu'avec sa combativité, elle pourra au moins donner les tons. Mais une autre inquiétude, c'est laquelle? Vous savez, en 2019, le président Tshisekedi lui-même avait donné les tons au camp colonel Tchatche pour planter quelques arbres. Alors, jusqu'ici, je n'ai pas l'évolution de tout ça, c'est comment? Maintenant qu'il y a un projet encore à Yangambi, messieurs les journalistes, que madame nous éclaire, parce que ce n'est pas toujours bien d'amorcer des projets alors que ceux-là qui cultivent ne sont pas sensibilisés. Il y a l'isolement des terres et mettre des terres en jachère. Quand ils ont déjà cultivé, il faut maintenant les sensibiliser pour qu'ils laissent ces terres-là et en autres, pourvu que les terres déjà cultivées peuvent rester en jachère et en isolement, à telle enseigne que ultérieurement, ils pourront revenir. Maintenant, parce qu'ils cultivent, et en même temps, vous venez avec des projets de reboisement, de lutte contre la dégradation des terres, je vois que c'est peine perdue. Mais ce n'est pas toujours peine perdue parce que ce sont des efforts fournis par les dames. Et ces dames-là, avec leur concours, l'implication aussi de Mme Eve Bazaïba, ça va aller. Maintenant, je voulais un peu demander à madame. Mmh. Le projet va se limiter seulement à Yangambi, ou soit ils chercheront à ce que cela soit élargi dans d'autres contrées. Parce qu'à partir de Kanyoka, où je vous appelle, nous connaissons quelques couacs, quelques inquiétudes. Parfois, les cultivateurs ne sont pas encadrés. Ils ne sont pas aussi financés avec des intrants chimiques pour pouvoir mettre dans leur champ. Alors, comment il peut rassurer la conscience de beaucoup de Congolais qui les suivent maintenant, là, pourvu que le projet ne se limitera pas seulement à Yangambi, ça va s'étendre sur d'autres contrées et, en l'occurrence, la contrée de Kanyoka. Merci.
Merci beaucoup, Kachai. Votre préoccupation mérite un petit recadrage. Hein. Le projet d'un milliard d'arbres proposé par le président de la République n'a rien à voir avec les projets de restauration des sols dégradés de Yangambi. Madame Amanda, que répondez-vous à la préoccupation d'ingénieur Damas Mambamba qui encourage plutôt dans le cadre d'intégrer également la plantation des bambous hein, dans s'il faut restaurer les sols?
Merci à l'ingénieur Damas. Son intervention est très, très constructive. Il a évoqué le bambou et on n'a pas eu le temps de présenter toutes les activités du projet depuis le début. Le projet ne fait pas que restaurer les sols ou les plantations. Le projet intervient aussi dans l'éducation environnementale, dans la filière bambou. Aussi, on a toute une filière dédiée au bambou. Il y a une filière pour l'apiculture. On a vraiment le projet est scindé en plusieurs filières. Mmh. Alors pour ce qui est de la question du bambou, comme je l'ai dit à Madame Evelyne précédemment, avec l'état de dégradation qu'il y a actuellement, les bambous seraient plutôt un obstacle. Nous savons que rien ne pousse en dessous du bambou. Ça, c'est quelque chose que nous savons. Alors dire de mettre le bambou dans tous ces hectares qui occupaient les plantations autrefois. Mmh. Ce serait plutôt une difficulté plutôt qu'une solution. Mais n'empêche que nous avons une filière bambou où nous travaillons avec des artistes, des artisans de transformation de PFNL. Et madame a évoqué...
C'est plutôt monsieur Kachai qui voulait savoir hein, pourquoi ne pas amener aussi ces projets de restauration des sols dans d'autres contrées de la RDC parce que il y a pas que Yangambi qui subit cette affaire de dégradation des sols.
En effet, oui, ça c'est un point, mais comme vous le savez, un projet le projet que nous exécutons ici est un projet du gouvernement congolais, mais financé par l'Union européenne. Mmh. Donc j'espère, avec monsieur Kachai, que le gouvernement pourra solliciter prochainement des fonds pour un projet similaire dans sa contrée.
Nous retournons au standard pour donner la parole à deux autres auditeurs hein, qui nous ont appelés, qui sont en ligne. Monsieur Ntambwe, vous êtes à Beni, bonjour.
Oui, bonjour Maciel, bonjour aussi à l'invité de la radio Capi.
Allez droit au but, quelle est la question que vous avez à poser à notre invité?
Oui, moi je suis en train de voir comment est-ce que il y a la dégradation du sol en République démocratique du Congo, précisément à Yangambi, alors que nous avons un ministère de tutelle qui est le ministre de l'Agriculture. Il faut que ce ministre-là puisse développer donc une politique agricole pour que nous puissions produire en République démocratique du Congo. Alors on se demande, pendant ce temps-là, est-ce qu'il est ministre seulement des noms ou bien il est ministre d'action? Il faut qu'il puisse, il puisse demander à sa conscience pourvu que la population est en train de souffrir.
Monsieur Ntamboué, s'il vous plaît. Monsieur Ntamboué, ces projets réalisés en collaboration avec les gouvernements congolais, c'est l'Union européenne qui finance, mais l'exécution s'est faite en collaboration avec le gouvernement congolais. Donc, l'État n'est pas en marge de l'exécution de ces projets.
Oui, parce que il faut que ce projet-là puisse arriver jusqu'ici chez nous à Beni, parce que vous allez voir beaucoup de produits sont en disparition suite aux maladies des produits agricoles. Merci
beaucoup Ntambo. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Beni. Retournons cette fois-ci à Mbandaka, dans la province de l'Équateur, pour donner la parole à Chico Bassa. Chico, bonjour. Et quelle est la question que vous avez à poser à notre invité?
Oui, bonjour Tati.
Bonjour.
Ouais, ok. J'ai au moins trois questions que je vais poser à l'invité. La première question est de savoir, je ne sais pas, c'est aujourd'hui qu'on alerte les gens que les sols sont dégradés dans Yangambi. Bon, je ne sais pas, que faisait Yangambi avant que le sol puisse être dégradé? Est-ce qu'il informait au gouvernement ou soit il n'informait pas au gouvernement? Parce que pour arriver à cet état que le sol est dégradé, on suppose qu'il y avait la dégradation avant. Et les autorités de Yangambi savaient que le sol dégrade. La deuxième préoccupation est de savoir quelle est l'approche que le projet va utiliser afin que la population puisse accepter le projet sans difficulté. Et la troisième question est de savoir, parce qu'en matière de reboisement, comme j'avais mis mon commentaire, en matière de reboisement, si on n'a pas un projet n'a pas beaucoup de temps, ou soit de la durée est moindre, il est difficile à rester avec le projet. Parce que nous, ici, on se souvient, on avait effectué un reboisement avec le VVF de 250 hectares d'acacia. Mais il se fait que comme le projet avait pris fin, la communauté ou soit la population qui effectuait les reboisements n'ont pas voulu encore continuer avec les activités. Et ce qui s'est fait que le projet avait échoué. Alors, pour eux, le projet va durer combien de temps afin que le projet puisse réussir? Pour ne pas avoir encore des projets et les pas blancs dans le pays, parce que le sol est dégradé. Quand le projet qu'ils vont exécuter, le projet n'existe pas, à ce moment, le sol sera toujours dégradé. On ne sait pas quand est-ce qu'ils seront à mesure de restaurer le sol. Parce que la dégradation, c'est facile, mais la restauration, c'est difficile en matière de l'environnement. C'est tout à fait difficile à restaurer le sol dégradé. Ok, merci.
Merci beaucoup, Monsieur Chico Bassa. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Mbandaka. Nous allons cette fois-ci à Isangi, hein, à Isangi, pour donner la parole à Monsieur Alphonse. Bonjour, allez droit au but. Quelle est la question que vous avez à poser à notre invité?
Bonjour, je suis le pasteur Alphonse Isaac. Alors, à Isangi, j'appelle de la ville de Yaboïti. Écoutez, je suis presque avec mes deux jambes sur ce projet. Parce que d'abord, la Yangambi, eux, appellent forêt équatoriale. Quand on parle de reboisement de la forêt, oh, la forêt, comme madame l'invité avait dit, la forêt se régénère. Mais moi, je trouve plutôt qu'il y a beaucoup de poids dans ces projets. D'abord, on nous amène l'acacia. L'acacia qui n'est même pas adaptable dans notre sol ici. On peut remplacer un projet par un projet. Il y avait le projet de VIA qui donnait un peu d'argent. Il y avait le projet de palmeraie qui pouvait nous produire des riz. Ils amènent l'acacia qui n'est pas adapté à notre sol. On parle de 1000 arbres. Mais jusque-là, on ne voit que des pépinières. Je ne sais pas combien on a planté. Ensuite, ce projet, au début, j'avais suivi l'invité. Il a parlé de concertation. Ils se sont concertés avec les populations. Parce qu'à Yanga, on ne connaît pas ce projet, son coût. On ne connaît pas l'adhésion, on ne connaît pas
il n'y avait pas un cahier de charge. Et le cahier de charge, tout ça, même les autochtones, ont moins de difficultés pour accéder à des petits lopins de terre qu'ils leur donnent. Parce qu'on veut planter des acacias, alors que souvent, dans ces terrains-là, ils plaçaient des quoi, des niébés, des niébés qui produisaient beaucoup. Ce que je me demande un peu, comme un auditeur avait dit, il y a beaucoup de plans de l'Union européenne qui publient maintenant, Yangambi. Mais ils ont des véhicules là-bas. Alors, pendant ces chats, la route n'est pas praticable comme d'autres avaient dit. Bon, comment la population doit bénéficier des projets communs? Quel est le bénéfice de certaines populations? Et ensuite, vous voulez planter les arbres sous les grands arbres. On retrouve le blanc là, sous le grand, au plein cœur de la forêt équatoriale. Et quand vous voulez partir au plein cœur de la forêt équatoriale, en faisant des grands trous de 8 et 7 mètres.
Oui, monsieur Alphonse, merci beaucoup de votre préoccupation. Je crois que madame Amanda a quelques minutes pour répondre aux derniers des auditeurs. Oui, allez-y rapidement, on n'a plus assez de temps, en 3 minutes. Que répondez-vous aux deux derniers auditeurs?
Ok, on peut commencer par Métis Alphonse, le plus récent.
Oui.
Ce que je tiendrai à dire à Métis Alphonse est que l'objectif n'est pas de planter des arbres en plein forêt, non, mais plutôt sur les terrains ou les terres exploitées pour l'agriculture où il n'y a plus assez de production. Donc on ne va pas planter dans la forêt, en plein cœur de la forêt. Et pour ce qui est des cahiers de charges, Monsieur Alphonse devrait savoir que Yangambi est différent des I5 dans le sens où Yangambi est plutôt le centre de recherche que l'UNERA occupe pour ses recherches. Donc on ne peut pas parler des cahiers de charges dans un contexte tel que Yangambi. Et pour Monsieur Bassa qui dit depuis quand le sol est dégradé, en fait,
Il s'est vraiment soucié de la pérennisation de ses projets, hein, parce que les projets de reboisement.
Oui, la pérennisation.
Mmh.
Oui. Pour ce qui est de la pérennisation, le projet a pris plus de 3 ans seulement à se consacrer à la recherche. Cette recherche a permis de savoir ce qui devait être fait, comment ça devait être fait. Et le projet aussi, je peux peut-être l'exister, le projet a déjà à peu près 5 offres de masters qu'il a formés, des masters locaux, justement pour s'assurer de cette pérennisation. Parce que si on n'a pas un œil très regardant, vraiment critique, il est difficile de pérenniser quoi que ce soit, même si on y met tout le fond qu'il faut. Donc, le projet vraiment a mis en place ce qu'il faut pour la pérennisation de ces activités.
Merci beaucoup, Amanda Grasse. Nous rappelons que vous êtes agent des sensibilisations du projet de valorisation des sols dégradés du territoire de Yangambi dans la province de La Tchopo. Avec vous, l'on a eu à aborder ces sujets liés à l'importance de la valorisation des sols dégradés de Yangambi dans la province de La Tchopo. Merci beaucoup et à la prochaine occasion.
Merci. Merci beaucoup.